RMC.
Ils doivent faire à peu près le travail des milieux excentriques et comme là il n'y en a pas, ils doivent le faire. Donc.
J'espère que la route va vite tourner.
Le football show.
Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bons footballeurs.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot chez Berbébois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit, comme tous les soirs en direct, bien sûr, tous les soirs de l'année, l'After est là et on repart pour une nouvelle saison. Dans l'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Jérôme Rantaine fait son retour ce soir, mais avant de l'accueillir, avant d'accueillir l'équipe de cet After, j'aimerais quand même vous donner quelques précisions sur l'année à venir. Vous aurez toujours dans l'After de la passion, de l'analyse, des infos, de la bonne humeur, dans la majorité des cas, hein. Tout le temps, toujours le cas, mais enfin, donc dans la grande majorité des cas quand même. Et en plus de Jérôme Rantaine, Daniel Riolo, bien sûr, qui sera de retour dans quelques jours. Il sera là avec Pierre Ducrot, avec Ali Benarbi, avec Lionel Charbonnier, Jonathan McCarthy, bien sûr. Et puis nos drôles de dames, Fred Hermel, Simone Rovera, Philippe Auclair, David Lorto, toujours avec nous. Un petit nouveau cette année, Ludovic Obraniak, qui sera là dès vendredi dans l'After. Et puis, évidemment, de nouvelles rubriques que vous pourrez découvrir au fur et à mesure des Afters de cette semaine et des semaines suivantes. Et bien sûr, on essaie de se renouveler un peu, modestement. Avec Jérôme Rantaine qui fait son grand retour ce soir. Jérôme, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Ça va, ça te fait plaisir là,
tu... Non mais bien sûr que ça me fait plaisir. J'attendais ce moment depuis. Bah, je peux pas te dire depuis un mois parce qu'il fallait que je récupère de la Coupe du Monde.
Ouais.
Hein, mais voilà, quand tu commences à commenter les matchs, ce qui était mon cas en Estonie, donc derrière, j'attendais à reprendre mon émission avec toi, Gilbert, avec Daniel bientôt.
Exactement, et avec Samy Traoré dans quelques instants. Ouais. Il y a les matchs ce soir, Jérôme, les barrages aller de Ligue des Champions. On vient de reprendre en Biélorussie entre le Bate Borisov et le PSV Eindhoven, un partout entre les deux équipes. À la mi-temps, Benfica mène 1-0 face au PAOK Salonique. Et à la mi-temps, il y a 0-0 entre l'Étoile Rouge Belgrade et Salzbourg. C'est important parce que on va suivre ça toute l'année sur RMC, dans l'After particulièrement, la Ligue des Champions. Et ce sont de futurs adversaires potentiels de nos clubs français. Le programme de l'After ce soir, évidemment les avis. Jérôme veut parler de Genesio. Samy Traoré, lui, veut parler du mercato marseillais. Et puis, après 23h, l'OM a-t-il eu raison de ne pas prendre Balotelli? Le reste de l'actualité, mercato du jour, un quiz avec les nouveaux t-shirts de l'After à gagner. Inscrivez-vous au 32-16 dès maintenant. Messieurs, dames, reconstitution de Ligue dissoute. Jérôme Rantaine est là. Jérôme, il aime bien, comme ça, de temps en temps, retrouver quelques-uns de ses anciens coéquipiers. Samy Traoré, bonsoir.
Bonsoir à tous, excusez-moi pour le retard.
Heureusement, mais qu'est-ce que c'est que ça? En retard, le premier jour de ma reprise, et wow.
Ça arrive,
attention, ça va.
Sans d'entraînement, j'ai fait le plus rapide.
Quand vous étiez en retard avec Guy Lacombe, c'était combien la minute de retard?
Je sais pas, Samy doit être au courant parce qu'il était souvent en retard. Donc.
Comme c'est un peu l'ami à Landreau, c'est lui qui tenait la caisse avec Landreau. Donc il doit savoir un peu les amendes, celui-là.
Qu'est-ce qu'on met comme amende, Jérôme? Là, il y a 3 minutes de retard.
À 3 minutes, normalement, la minute, c'est... À toi, à ton niveau, c'est au moins 20 euros la minute. Donc ça fait 60 euros.
C'est 10 euros, quand même.
Bah, non, mais là, on a augmenté. On est dans... On est champion du monde.
C'est vrai, c'est vrai.
Ça a changé.
D'accord avec toi. De toute façon, retard, quoi qu'il en soit, tu peux...
Exactement.
Guy Lacombe vient d'apprendre que t'es arrivé de 3 minutes en retard. Tout de suite, sa réaction en exclusivité.
Putain de merde.
Jérôme, il l'a connu, ce sérieux.
En plus, la moustache et tout. Je crois qu'il s'énervait contre moi, là, à ce moment-là. C'est possible, hein.
Il défonce une porte.
Sérieux, ouais, il l'a souvent fait.
Bon, allez, on démarre tout de suite avec le dossier de l'After du jour, messieurs, dames, attention. Dossier de l'After. On a ressorti les, tu vois.
Il y a de la nouveauté, hein.
Il y a de la nouveauté. Dossier de l'After. C'est sérieux, c'est du lourd. Oui, pourquoi dossier de l'After? Parce que nos champions du monde reprennent. Et là, il y a problème. En Angleterre, ils ont repris tôt. Certains ont brillé. N'Golo Kanté, Pogba notamment. Certains ont repris en Espagne. Une véritable catastrophe. On va en parler avec Fred Armel dans quelques instants. Et puis en France, certains n'ont pas repris. Fekir, par exemple, qu'on attend toujours. Rami, lui, n'a pas joué pendant la Coupe du Monde. Mais bon, ça l'a pas empêché de ne pas reprendre quand même directement dès la première journée du championnat. Alors, y a-t-il une bonne recette? Jérôme et Samy, on voulait en parler ce soir. D'autant que Jérôme a un avis sur la question. Et avant d'en parler, j'aimerais quand même que Fred Hermel nous rejoigne. Fred qui, il y a quelques jours, était en Estonie avec Jérôme pour la Super Coupe d'Europe. Fredo, bonsoir.
Hola chicos.
Salut Fredo.
Ça va?
Bonjour Fred. Samy. Bonjour Gilbert. Et bonjour mon nouvel ami que j'ai.
Comment est-ce que vous vous êtes vu en
Comment
vrai?
Comment ça va Fred? Ah ouais.
Oh bien, on a même bu de bière.
Exactement.
Bon, ensemble et tout. Mais en fait, tu sais, Jérôme, j'ai compris que quand il est pas sous mauvaise influence, c'est un super mec en fait.
Ouais, arrête.
Parce que parfois, il a des mauvaises fréquentations dans l'after. Alors que là, franchement...
On ne doit pas parler des absents.
C'est de l'humour, bien entendu. Mais en fait, mais je te voyais plus grand. C'est normal. C'est,
mais souvent, on me l'a.
C'est pour ça qu'il a jamais été très bon de la tête, de toute façon.
Ah bah ouais.
Ses sourcils, tu les avais?
Non, mais on s'est régalé.
C'était bien. C'était une belle
première.
Soirée.
Alors Fred, t'es là parce que t'en as vu toi des champions du monde français qui ont repris, que ce soit au Barça, que ce soit à l'Atlético, que ce soit au Real, et franchement c'était pas corrélé de succès. Hein.
Non, parce que si on regarde un petit peu, commençons par l'équipe qui en a le plus, c'est-à-dire l'Atlético, en fait il n'y avait que Thomas Lemar qui était vraiment en condition. Mais il a joué quoi un match simplement pendant le mondial, et en plus il était arrivé plus tôt parce que comme il venait de signer à l'Atlético, il avait pris moins de vacances, donc il s'était un peu plus entraîné, etc. Donc lui physiquement il était bien. Griezmann, franchement c'était la Super Coupe, tu t'en souviendras, Jérôme. Griezmann il joue quoi une heure, mais il touche pas un ballon quoi. Enfin il est pas en condition. Il n'est pas en condition de jouer. Simplement, c'est le Real en face qui est essentiel pour l'Atlético. Et Simeone voulait absolument mettre ses meilleurs joueurs, même pas à 100%. Je veux dire, je pense que Griezmann est à 50%. Il a joué depuis, c'était hier soir, un match à Valence.
Il a été bon ?
Il a été bon de par son talent, parce qu'il met une passe mais sublime pour le but de l'Atlético marqué par Correa. Mais tu sens, mais il sort au bout de 67 minutes parce qu'il est pas, il a pas encore les jambes, et c'est quand même un petit peu hâtif. Lucas Hernandez, bon lui il était suspendu hier, mais il a eu quand même quelques difficultés lors de la Supercoupe. Il a joué 120 minutes quand même, c'était beaucoup trop. Donc voilà, du côté de l'Atlético, je trouve qu'ils ont un peu exagéré. Du côté du Real aussi, parce que Varane. Et d'ailleurs, Lopetegui a vite compris qu'il avait fait une erreur. Varane a joué la Super Coupe. Il a fini sur les rotules et il a été responsable direct d'un but, mais parce qu'il était, voilà, il était pas dedans, il était fatigué, il était pas remis de toutes ses émotions, et il était pas assez concentré. Et donc ce week-end, Varane n'a pas joué une seule minute parce que Lopetegui s'est bien rendu compte qu'il était allé trop vite avec Varane. Et du côté du Barça, alors c'est vrai que Dembélé est pas mal, mais Dembélé il a joué quoi un match au mondial là aussi quoi, donc on peut pas dire qu'il a été très fatigué à ce niveau-là. Et okay. En plus lui, vu de la situation un peu compliquée qu'il avait au Barça, il est revenu plus tôt, il s'est entraîné plus tôt que Umtiti qui est pas encore à son niveau non plus.
Alors, est-ce qu'il y a une recette miracle, Jérôme et Samy? Comment gérer ce retour de mondial? Donc, on a vu que en Espagne, en Angleterre, ça se passe pas forcément comme en France, avec des fortunes diverses.
Bah, en fait, moi, ce qui me chagrine dans tout ça, c'est que je comprends l'importance de tous ces joueurs dans les clubs. Ils ont tous des statuts, aujourd'hui encore plus parce qu'ils sont champions du monde, des statuts de joueurs leaders, de joueurs indispensables à une équipe qui doit gagner un titre, voire plusieurs titres dans l'année. Donc je peux comprendre la stratégie des entraîneurs à se dire il faut absolument que j'ai ma meilleure équipe sur le papier, sur le terrain au plus vite et dès la première journée, même quitte à mettre en danger certains joueurs physiques. Parce que là, c'est les mettre en danger. Alors, je veux bien, comme tu disais, il y a des.
Il y en a qui ont été bons d'entrée.
Non, mais il y a des joueurs qui sont bons. Kanté a été bon, mais Kanté, même avec un mois de vacances, Kanté il a toujours trois poumons, donc va savoir. C'est pas peut-être le mauvais exemple. Mbappé a été bon sur une mi-temps, mais face à un bloc très bas de Guingamp, où les efforts, c'est pas des gros efforts qu'il a fait, c'est des efforts explosifs, et il a un tel talent que on l'a vu sur les deux buts qu'il marque, c'est fantastique ce qu'il arrive à faire, mais que sur une mi-temps. Les autres, Fred le disait, les Espagnols, même les Anglais, tu parlais de Pogba. Pogba, le premier match a été intéressant, il a marqué sur penalty. Même sur le deuxième match, il a marqué sur penalty, où il était complètement hors de forme sur le deuxième match. Mais moi c'est logique. Moi je mets en avant mon expérience avec Samy, c'est pareil. Dire quand on te dit avant une saison, encore plus quand tu vas jouer des matchs de Coupe d'Europe, des matchs au niveau avec ton équipe nationale, tu vas enchaîner, il va y avoir les coupes après qui vont commencer au mois de novembre, au mois de décembre et puis ça va s'enchaîner. La préparation physique, c'est le plus important. D'accord? On te parle de 5 semaines de préparation physique. Ou 5 semaines, tu cravaches. Surtout sur les 3 premières semaines. Après, tu relâches un petit peu pour commencer la saison.
Oui, au bout de la cinquième. Il y a les matchs amicaux qui arrivent en
la cinquième semaine. Là, il y a certains, ils ont repris il y a une semaine, il y a 10 jours, il y a 15 jours, et tout de suite, on leur demande sur des matchs. Alors,
super. Ton message, c'est laissez-leur le temps, quoi.
Mais putain, mais ça me paraît logique. Fekir. À Lyon, c'est tout à
donc
fait logique.
Donc les Anglais, ils font n'importe quoi.
Ben les Anglais, les Espagnols. Pour finir, Samy, regarde. C'est juste que je pense que les entraîneurs font n'importe quoi, qu'il y a aussi les présidents qui mettent une forme de pression pour... quand tu mets tant sur un joueur, t'as envie de le mettre sur le terrain. Ok, mais tu les mets en danger. Parce que j'attends de voir. Souvent, on dit après, l'année qui va suivre, c'était l'exemple de 98, elle est un peu plus compliquée. Bah ouais, mais si c'est la même chose qu'ils avaient fait sans préparation physique, comment tu veux tenir les 8 mois de l'année? C'est pas possible. C'est impossible. Donc au bout d'un moment, il faut peut-être revoir ça. Et regarde, Marseille, c'est flagrant. Marseille hors de forme. Mais là, il n'y a pas que le champion du monde, il y a le Croate derrière.
Modric au Real, c'est pareil.
Modric au Real, on l'a vu rentrer deux fois.
Oui, il n'y a pas que les Français, ceux qui sont
allés loin. Le problème qui se pose à eux, c'est que dans l'euphorie, tu te sens capable de pouvoir enchaîner ces matchs. Dans l'euphorie, c'est mental. Mais physiquement, non. Parce que t'as dépensé une énergie mais folle après la Coupe du Monde. Pour les champions du monde, bien sûr. Même pour les Croates. Parce que une fois que t'as atteint ce sommet-là, il y a tout ce que tu relâches psychologiquement. Mais eux, dans leur tête, ils pensent qu'ils sont encore capables de pouvoir enchaîner un match avec peu de récupération. Mais non.
Après, donc en gros, là, ceux qui ont repris vite, on peut considérer qu'ils sont plus, ils peuvent être plus sujets à des blessures dans les semaines qui viennent que l'autre.
Bah ouais, c'est sûr. À des blessures, à des méformes.
C'est sûr, ils ont joué 120 minutes. Luthi Hernandez, 120 minutes.
Non, mais de toute façon,
il tire sur la corde.
On va le voir.
Sur un match officiel, hyper important en plus contre le Real. Après, moi, c'est pas un match de championnat où tu peux là, ils étaient à fond. Les mecs, parce qu'ils voulaient
bien sûr, ils étaient à fond. Comme il dit Jérôme, moi, je pense plutôt que c'est des coachs qui devraient prendre plus de précautions avec ces joueurs.
Il y a Guizzi sur le hashtag RMC Live. Regardez ce qui est arrivé à De Bruyne. City.
Mais ouais.
Lui, effectivement, il est allé jusqu'à la match. S'il est jusqu'au bout, parce qu'il est à la troisième place et tout.
Ouais, après, c'est malheureux, ça. On peut pas spécialement
lui dire.
Mais moi, je suis. Alors, moi, je l'ai vécu avec le Paris Saint-Germain à l'époque. Je sortais de l'Euro. J'avais pas fait la finale de l'Euro. J'avais pas fait comme la plupart.
Non, t'as été éliminé en quart.
Ouais, non, mais. Et puis, j'étais un des coiffeurs. Donc, j'avais très peu joué au Portugal. Mais. C'est pas parce que tu joues peu, c'est cette réflexion aussi. Hier, je me suis chopé avec Duga. Non, mais quand Duga me dit hier à l'émission, ouais, mais attends, on va pas parler Thauvin, Rami, Mandanda. Les mecs, ils ont pas joué, ils peuvent pas dire qu'ils sont fatigués. Mais c'est pas une question d'être fatigué ou pas. C'est une question d'avoir le rythme. Le rythme. Quand tu t'entraînes, tu passes un mois de compétition. Ce qui a été le cas de Rami, entre autres, et de Thauvin. Thauvin a très peu joué. Tu t'entraînes déjà plus que ceux qui jouent. Tu fais le match avec les coiffeurs, c'est pas ce match-là qui te fait garder un rythme fou.
Mais tu le gardes quand même.
Mais à l'arrivée, tu vas jusqu'au dernier jour de la Coupe du Monde, tu fêtes ça, ce qui me paraît logique, t'es champion du monde. Heureusement qu'ils l'ont fêté. Certains ont dit, oh, bah, lui, il a bu trop de trucs, il a bu de... Mais, oh, si tu fêtes pas ton titre de champion du monde, tu fêtes quand, une victoire? Donc, ça me paraît logique. Ils ont 3 semaines de vacances.
Si Franck Leboeuf, il avait pas maintenu un rythme important pendant la Coupe du Monde 98, il aurait joué la finale, il serait trop physiquement. Ce qui n'a pas été le cas.
Mais exactement. Non, mais
tu vois. Et c'est le dernier match qu'il joue.
Ce que je veux dire, c'est que ces joueurs-là.
Ces joueurs-là qui ont peu joué.
mais Gilbert, ces joueurs-là qui ont peu joué pendant quasiment pas joué pendant un mois, ils ont 3 semaines de vacances. Donc t'imagines, ça fait 8 semaines où, il y a que de l'entretien. Et forcément, ils ont encore plus besoin que ceux qui ont joué d'avoir une grosse préparation physique. À part, il y a des exceptions. Et Fred le disait très bien. Il y a des joueurs qui ont repris plus tôt parce qu'ils avaient envie. Ils avaient envie de découvrir le nouveau club, ce qui est l'exemple de Thomas Lemar. Et moi, Lemar, il a d'autres choses à améliorer. Il doit être plus décisif. Il doit se retrouver plus dans la surface de réparation adverse pour aller marquer ou faire marquer. Mais par contre, il a un volume de jeu qui est impressionnant. À la Super Coupe, c'est aussi grâce à lui et son volume mais et l'entrée de Correa, que l'Atlético a repris la main mise sur le match.
Ouais, son remplacement, ça lui a fait du bien.
Oui, mais parce qu'il a repris plus tôt que les autres. Et lui, il a, alors peut-être pas 5 semaines de préparation, mais il en a eu 3. 3 grosses avec Simeone, à mon avis, il rigole pas
et,
à l'entraînement.
Et en plus, avec un préparateur physique qui s'appelle Oscar Ortega, qui est considéré comme un génie à ce niveau-là, il est fait bosser énormément.
Exactement.
Et quand tu arrives à supporter ça, bah tu es très fort tout de suite.
Ouais.
Mais je pense qu'il doit avoir une bonne VMA aussi au départ aussi. Hein.
Oh bien sûr. Non, parce que sinon il serait. C'était le cas quelqu'un que j'aimais beaucoup, hein, Joshua Guilavogui. Il tenait pas le coup de la préparation physique de l'Atlético. Ouais. C'est pour ça qu'il est pas resté.
Exactement.
Ah ouais, le gars n'arrivait pas à suivre.
Non, mais vraiment.
C'est dur.
Mais je sais. Moi j'aime beaucoup le joueur. Hein, en plus un super mec, mais ça a pas marché pour lui parce qu'il il ne tenait pas le coup de l'exigence demandée aux entraîneurs de l'Atlético.
Ça, il a raison, Fred, parce qu'il y a ça aussi. Il y a des entraîneurs et les staffs qui demandent une telle dépense d'énergie physique, ça soit sur que malheureusement même des grands joueurs, même des bons joueurs, ils peuvent pas tenir parce que avoir un gros cœur, pouvoir courir, avoir un gros volume de jeu, c'est pas donné à tout le monde.
Surtout au poste aussi.
Il y a la Juve, hein.
Eh ben ouais, exactement.
Ah bah attends, il a beaucoup souffert hein, la première préparation
de saison. Exactement, c'est vrai.
Et donc il était très stressé à l'époque pour ça. Justement, par rapport à Zidane, si tu me permets, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec lui. Il est encore dans mon esprit, vous pouvez comprendre. Mais par exemple, moi je me faisais la réflexion l'autre jour à Tallinn, si Zidane avait été l'entraîneur de l'Atlético, ni Modric ni Varane n'auraient même été convoqués.
Eh ouais.
Parce que Zidane, lui, il me disait tout le temps, j'ai vécu beaucoup de choses, un joueur a besoin, pas simplement physiquement, mais intellectuellement, de couper vraiment l'été.
C'est vrai,
tu vois. Parce qu'il y a un influx
psychologiquement.
Il parlait même plus du côté psychologique en disant, t'as besoin d'être avec ta famille, d'être loin de tout, de plus penser aux fautes, etc. Sinon, tu reviens pas bien, quoi.
Mais tu sais que, encore une fois, là, j'ai pas pu finir. Moi, mon exemple, là, quand j'ai fait l'Euro et tout ça, moi, je sortais de la finale avec des champions, j'avais fait une saison complète en championnat, j'avais plus de 50 matchs dans l'année. Tu vois? Je suis arrivé, j'ai signé au PSG, j'ai eu le droit à une semaine de vacances, alors qu'il y en avait 3. Et Vaïd, qui était mon entraîneur à l'époque, me dit, quand j'ai signé, me dit, écoute, toi, c'était des vacances au Portugal. Genre, t'as pas joué. Mais psychologiquement, j'avais besoin de récupérer. Et encore plus quand t'arrives dans un nouveau club, comme le Paris Saint-Germain, où, il m'a laissé une semaine. Forcément, t'as l'envie, tu dis rien, parce que c'est ton nouveau club, t'as envie de donner un max, et tu te crois que t'as 3 Jérôme Rotten sur le terrain qui vont rentrer, que tu vas gagner les matchs à toi tout seul. Sauf que ça dure pendant 3 semaines, et que après, t'as les fatigues physiques, et quand t'as des trous, la presse était bien placée pour le savoir, Gilbert, parce que là, à l'époque, c'est toi, entre autres, qui m'a analysé. Et dire, tiens, il a des trous, il a ceci,
avec justesse.
Cela. Ouais, avec justesse, pas toujours.
T'as pas toujours été bon non plus, hein.
Moi, souvent, été bon. Et après, t'as les blessures. Et on parlait, on attend le mois le changement de climat. Mais je te dis qu'en septembre, octobre, novembre, là, quand ça va s'enchaîner, il commence à pleuvoir, que ceci, cela,
trou,
les déplacements, il va y avoir pas mal de pépins physiques. Et ça, c'est quand même dommageable quand tu sors d'un titre de champion du monde, quoi.
On a demandé à Vaïd ce qu'il avait pensé de ton début de saison 2004-2005. Sa réponse tout de suite.
Hier soir, quand j'entrais chez moi, je vous dis franchement, j'ai vomi.
Ah, ils sont encore plus cons que quand je suis parti en vacances.
Guy Lacombe, Vaïd.
Il en a pris partout. Là,
j'étais bien reposé, ça y est, je suis déjà fatigué, j'ai entendu les deux. Là. Ça y est.
Allez, 32-16, on vous attend pour réagir dans quelques minutes. On va parler de Lyon, bien sûr, et de son mercato, mais également de l'OM. Vous saurez tout sur les coulisses de ce qui s'est passé entre Nice et Marseille sur Balotelli, d'autant que Jean-Pierre Rivière s'est exprimé tout à l'heure dans Team Dugas. Et ce soir, Jacques-Henri Hérault lui a répondu. Donc le feuilleton continue, même maintenant qu'on sait que ça ne se fera pas. Donc voilà. J'ai quelques petits... message Quentin qui lui dit, il est chaud Jérôme là, il veut regagner sa place dans l'after. Non, il l'a sa place dans l'after.
C'est indiscutable.
Voilà, il y a aucun souci. Dis-moi Fredo, quand les Espagnols ont été champions du monde, ça date un peu. Hein.
Ça fait 8 ans.
On s'était posé ce genre de questions au Real, au Barça.
Non, c'était plutôt l'inverse en fait. C'est le fait que les Espagnols se sont posé la question après le désastre de 2010. De 2014 au mondial, oui, parce qu'il gagne l'Euro après, 2014, c'est le fait que, comme la Liga est très compétitive et que les clubs espagnols jouaient les finales Europa League, Ligue des Champions, etc., qu'ils arrivaient crevés au mondial. Voilà, c'était dans l'autre sens en fait qu'on réfléchissait. Mais il n'y avait pas eu à l'époque d'inquiétude. Ils étaient tellement contents que et c'était un peu la fête aux champions du monde aussi. Hein. Iniesta qui était applaudi sur tous les terrains. C'est-à-dire que la Coupe du Monde, elle a duré très très longtemps. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'Iniesta jouait avec le Barça à l'extérieur, il y avait une ovation parce que c'était l'homme qui avait marqué le but de la finale, etc. Non, il n'y avait pas eu ce débat dans ce sens-là. Plutôt après, pour expliquer l'échec en disant c'est à cause de ce qui se passe en club que la sélection marche pas parce qu'ils sont crevés.
Pour être complet. Que doit-on penser de la reprise d'Adil Rami qui lui n'a pas joué une minute et qui donc a attendu la deuxième journée pour faire ses débuts? Normal aussi?
Non. Normal qu'il débute là, qu'on ouais.
Il aurait dû attendre encore aussi.
Il aurait dû attendre encore, même s'il n'a pas joué de minute pendant le mondial.
Bien sûr, il aurait dû encore avoir au moins 2-3 semaines d'entraînement dans les jambes pour arriver frais.
Mais pour une raison très simple aussi, parce qu'on dit il a pas joué. Sauf qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des entraînements, mais il a pris des avions, il a pris des bus, il a fait des voyages. Et ça use énormément. Et les deux joueurs qui sont là ce soir vont pouvoir le dire. Ça use parfois autant qu'un match.
Ouais, le bus qu'il prend, c'est pas le flexibus qui fait Paris-Lyon en 12 heures. Hein.
Ouais, mais c'est fatigant. et dormir à l'hôtel pendant un mois, c'est pas pareil que dormir chez soi.
Mais non.
Non, mais c'est vrai que
énerve et ça fatigue les organismes et
les avions, c'est abusé quand même. T'as pas assez de place pour les gens.
Non, c'est...
Ouais. Bah ouais, surtout les mecs très grands comme toi, les basketteurs. Ouais.
T'as raison.
Ah, mais c'est salé.
Non, mais dis ça parce que par exemple, quand Cristiano Ronaldo, quand Zidane décidait que Cristiano Ronaldo ne joue pas de match, il évitait par exemple Las Palmas parce qu'il y avait 2h40 d'avion, il restait chez lui. Voilà, pour ce genre de truc parce qu'il y avait de l'influx et puis de la fatigue à cause de ça qui s'accumulait.
Non, mais sans aucun doute. Mais après, pour rebondir sur Rami, c'est pas possible, c'est une erreur de Garcia. Alors je veux bien, encore une fois, Samy disait, les joueurs ils ont envie. Bien sûr que t'as envie. Tous les joueurs ils ont envie de jouer, ils préfèrent jouer à un match de compétition plutôt que d'aller taper du fractionné ou des footings de 45 voire une heure pour retrouver la forme.
Génial le fractionné. J'adore.
Et faire le fond. Oui, parce que t'es un coureur à pied.
Ouais, mais c'est pas le même sport.
Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que l'entraîneur, au bout d'un moment, il doit faire la part des choses,
il doit s'imposer.
Surtout que Marseille, sur la première journée, la charnière centrale qui a été mise en place, elle a été performante. D'ailleurs, je veux bien que ça soit un match à domicile contre Toulouse, où c'était très compliqué pour les Toulousains.
Mais faut le gagner.
Mais à l'arrivée, ils l'ont gagné, ils ont été performants. Je suis pas sûr. Surtout après le match, là, comment ça s'est déroulé, ils auraient été plus performants que Çalhanoğlu, c'est ça?
C'est ça.
Ouais.
Putain, je l'ai bien.
Qui lui aussi était à la Coupe du Monde, d'ailleurs.
Voilà.
Mais
le problème pour lui, Rami, on connaît, on sait que Rami va monter en puissance, ça va aller mieux. Lui, déjà, il y en a certains qui disent, oh là là, c'est une imposture.
Il a pris des risques.
Oh là là, il y a eu l'exemple d'Oria, c'est mauvais exemple, voilà, ils ont refait un d'Oria. Non, moi, je lui laisse sa chance, il faut pas le juger là-dessus. Mais le problème, c'est qu'il y en a déjà qui a un bémol sur lui.
Mais ça faut taquer au coach?
Bah oui, c'est ce que je te disais.
Puisqu'on parlait de Rami, je vous propose de tout savoir sur son actualité musique.
C'est étrange, elle n'est pas du genre à faire ce genre de choses. Et cette lettre, ça lui ressemble pas.
Eh oui, une petite lettre. Une déclaration d'amour enflammée de Pamela Anderson à Adil Rami. Vous avez suivi ça? Je vais vous expliquer. Ça se passe sur le compte Instagram de Pamela Anderson. Elle publie une lettre à son amoureux. Voilà. Je vais vous la lire. Adil a tellement de qualités magnifiques, écrit-elle. Il est loyal, il est fidèle, il est amical. C'est un bon fils, un bon frère, généreux, drôle. Il a beaucoup de responsabilités, dit Pamela. Il prend soin de tout le monde, il est tellement jeune. Il a besoin de se défouler aussi. Il a besoin de ses amis. Et il a sa PlayStation pour se relaxer, dit Pamela. Je suis sérieux, hein, c'est... Ne me regarde pas comme ça, elle a vraiment écrit ça. Elle dit, les hommes ont besoin des hommes et d'une femme qui comprend. Et moi, j'aime ça, dit Pamela.
Ah oui.
Elle dit, parfois...
Elle doit pas aimer que ça.
Elle dit...
Salut, toi.
Elle dit, Pamela dit, parfois, je me demande si je suis la meilleure fille pour lui. Peut-être qu'il devrait être avec quelqu'un de plus jeune et de plus beau, dit Pamela. Elle ajoute, Adil a célébré la victoire de la Coupe du Monde, c'est normal. Il ne voulait pas de moi dans les boîtes avec les filles faciles. Moi non plus, je ne voulais pas être là. Laissons-le profiter. Ce n'est qu'une fois dans sa vie et je ne suis pas sa mère.
C'est bon,
elle lui a dit, vas-y profite Coco.
C'est bon,
Et tu penses qu'il en a profité ou pas?
Je reprends. Pamela rajoute.
On a passé les bonnes soirées. Ouais.
On s'est vu tous les soirs. Attends, je continue. Pamela rajoute. On s'est vu tous les soirs lors de nos courtes vacances ensemble et maintenant il a repris le travail. Nous sommes toujours ensemble. Être avec moi est une source d'emmerde pour lui. Je trouve qu'il gère ça très bien, mais il doit beaucoup m'aimer. Voilà la lettre de Pamela sur Instagram. Bravo. À Adil Rami.
C'est beau.
Fred, une réaction?
C'est gnangnang.
Bon, ben attends, mais c'est, voilà, quoi.
Mais non, mais
c'est l'amour.
Enfin...
Ouais, mais
toi, l'amour, tu comprends pas l'amour, toi. Voilà, c'est ça ton problème. Ça a toujours été ça ton problème, de toute façon.
Bah oui, ça c'est vrai, mais. Mais c'est sûr que moi, c'est l'amour des films et des livres et tout ça, mais des beaux trucs, quoi, tu vois.
D'accord.
Je peux faire un ragon, tu vois. Bah,
voilà, l'actualité d'Adil Rami.
Elle se sent peut-être sur la sellette, aussi, hein.
Non, ça se passe très bien. La preuve.
Ah, le nouveau statut quand même. Hein.
Eh ouais, nouveau statut. Les soirées tout seul en célibataire.
moi, par exemple à Madrid, maintenant que tu vois RMC Sport, droit Ligue des Champions et tout ça, bah ça va mieux. Hein,
ah, c'est autre chose. Ah ben bah, non, mais Fred, là, et puis là, à force de faire des matchs avec moi, tu vas te bonifier encore plus.
Et surtout maintenant, tu t'as pas vu sur Instagram tout ça, je mets la photo qu'on a fait tous les deux.
Ah, c'est obligé.
Et mec, tu vois, les gonzesses me disent, what? Ah, you're a friend of Jérôme.
Ouais, ouais. T'en fais pas, j'arrive bientôt à Madrid.
Bon, assez de bêtises. Fred, merci beaucoup. Fou.
Merci les amis.
Bonne soirée. Dans quelques instants, attention, on va lancer le débat sur le mercato lyonnais et sur Bruno Genesio. Oui, Bruno Genesio. Car Jérôme Antenne revient, il fallait forcément qu'au bout d'une demi-heure d'after, il parle de son coach préféré, Bruno Genesio. C'est dans quelques instants dans l'after. Évidemment, on vous attend, supporters lyonnais. Est-ce que vous allez être d'accord ou pas avec Jérôme? Le suspense est entier.
Obligé.
Appelez le 32-16 tout de suite.
RMC, le football show, l'after foot, Gilbert Bribois.
Ils sont là jusqu'à minuit, Jérôme Rotten et Samy Traoré dans l'after. Quelques messages sur le hashtag RMC Live. J'ai Petit Prince du Parc qui nous dit, ah, Rotten plus Traoré. Il nous manque plus qu'Edel et Pancrate et on est au complet. Je sais pas ce que ça sous-entend.
Bah, c'est une génération qui est passée, c'est tout.
C'est eux qui avaient besoin d'un monde touche. Mais non,
par exemple.
Ouais.
Et puis.
Sur le terrain.
Et puis, Pancrate, il jouait.
Non, pas trop.
Il jouait, il rentrait. Je l'autorisais quelquefois à avoir une vingtaine de minutes.
Et Edel, il faisait ses petits dégagements fouettés, là.
Ouais, non, ça, il l'a fait qu'une fois et il l'a pas refait après parce qu'il nous a coûté.
Bah, à Lyon, justement.
Ouais, bah oui, c'est ça.
Et puis, The Wasabi qui nous dit, n'empêche, Rami avec le recul. C'est comme si les chevaliers du fiel devenaient champions du monde. Quel destin.
C'est
dit,
vrai.
Dit The Wasabi.
Il y a eu du travail quand même, hein. Il est pas arrivé comme ça.
Mais exactement. Il a mérité sa place. Édouard G nous rejoint. Édouard G qui suit l'Olympique lyonnais, évidemment, toute l'année. Édouard, bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Salut, Édouard.
Salut, Jérôme.
Alors, Édouard, je t'invite. T'es assis, Édouard, hein, t'es décontracté.
Oui, t'as bien mangé, tout à fait. T'es en pleine forme, j'ai bien coupé, tout va bien. Ouais. Très heureux d'être avec vous. Voilà, quoi.
Non, je te dis ça parce que là, il y a un avis de Jérôme Rotten qui arrive, donc faut que t'écoutes ça attentivement et ensuite on débattra ensemble également avec Nicolas, hein, au 32-16 qui est supporter de l'Olympique lyonnais. Attention, messieurs, dames, le premier jingle Rotten de l'année.
Énorme but de Jérôme Rotten! C'est David Ginola qui est de retour en Parc des Princes!
Voilà. Il se rêve, il se rêve.
Je rappelle que c'était contre Marichès.
Non, mais on s'en fout, c'est la qualité du but. Il y en a eu très peu depuis des top buts comme ça. Mais bon, peu importe.
Allez, on t'écoute sur Genesio.
Bah, écoute, c'était pas prévu. Moi, j'attends le début de saison, forcément. On attend toujours le mois d'août. Mais il y a des équipes où je vais être un peu plus patient que d'autres. Et avec Lyon, je serai un peu moins patient. Alors, je pense qu'il y a... J'ai écouté les déclarations à la fin de saison, les déclarations de Bruno Genesio quand il a été reconduit, parce que certains pensaient qu'il allait partir. Les déclarations de Jean-Michel Aulas, les ambitions de Jean-Michel Aulas, à juste titre, cette équipe doit progresser, cette équipe elle doit revenir titiller le Paris Saint-Germain, même si, comme dit Jean-Michel Aulas, il y a une différence énorme entre Lyon et au niveau du budget, oui, mais bon, le budget de Lyon, il est quand même pas... c'est pas un petit budget, c'est le deuxième de France, c'est 250 millions d'euros, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Donc, ça représente quand même beaucoup
de possibilités
en termes d'effectifs, ce qui est le cas. Parce que Lyon ressemble vraiment à une équipe qui a le deuxième meilleur effectif de France en termes de recrues aussi, parce que quand t'as un effectif comme ça, que t'as des ambitions élevées, comme le dit Jean-Michel Aulas.
Pour toi, Lyon a un effectif meilleur que Monaco et Marseille.
Oui, oui, sur le papier, oui. Tu prends le 11, tu prends le 11 type. Je pense que Lyon.
De Monaco, après, Monaco, oui. Après que Marseille.
Après
ça peut
Marseille,
se valoir,
ouais. ça peut se jouer, mais ouais. En termes d'expérience, en termes de, je pense que Lyon est quand même pas mal et a montré que il savait très bien jouer au football de temps en temps et qu'il y avait des grands joueurs individuellement parlant. Après, on reparlera du collectif. Donc, quant à ces ambitions-là, t'attends que déjà ce mercato arrive à renforcer ton équipe. Mmh. Sur les manques qu'on a pu déceler il y a quelques années, hein, je te parle même pas des derniers mois, mais d'il y a deux ans, d'il y a un an où il y a eu pas mal de changements. Aujourd'hui, il y a eu deux recrues. Hein, en gros, c'est Dubois qui est venu compléter un côté droit déjà qui est quand même bien fourni, même si Raphaël devait partir. Raphaël, il est encore là. Tété est encore là. Donc là, il y a trois possibilités sur le poste de latéral droit. Ça fait quand même beaucoup, même si Dubois peut jouer à un autre poste.
Tu parles des grosses recrues là, parce qu'il y, ouais. y en a eu plus que ça.
Non, non, mais je te parle des grosses recrues, des recrues qui doivent apporter quelque chose. Donc Dubois, le petit Terrier devant pour apporter une solution supplémentaire avec Mariano Diaz ou Depay quand il joue devant. Donc si tu veux, mais il y a des postes quand même. Quand je vois le milieu de terrain, si tu veux t'améliorer, si tu veux venir concurrencer le Paris Saint-Germain, si tu veux exister en Ligue des Champions. Ah, le milieu de terrain, quand même, il me paraît très peu fourni. Il y a des très bons joueurs. Mais Touzard, il y a quand même un point d'interrogation, on l'a vu, sur des matchs européens. Donc, est-ce que Touzard, à le niveau vraiment de la Ligue des Champions, ça reste à voir. Moi, je suis sceptique, en tout cas. Et Bruno Genesio et Jean-Michel Aulas et le staff, ils doivent s'en rendre compte aussi sur la qualité des matchs. Moi, je vois les matchs, je vois pas les entraînements. Hein. Derrière, quand tu perds Diakabi, bah tu dois recruter. Alors, ils ont essayé. Ah mais bon, ils ont essayé, mais pourquoi les mecs ils viennent pas? Pourquoi Ruben Dias là, c'est ça le mec de
ils ont recruté Jason Denayer, hein.
Ouais, aujourd'hui. Donc ouais, mais aujourd'hui
c'est la deuxième solution celle-là.
Non, mais aujourd'hui déjà c'est la deuxième solution, c'est un joueur où mine de rien, il s'est quand même pas imposé dans un grand club et il a même pas eu de temps de jeu,
il a toujours
été prêté en Turquie ou ailleurs. Maintenant, c'est un point d'interrogation. Je dis pas que c'est un mauvais joueur. J'attends de voir. Mais est-ce que avec ce joueur-là, tu vas vraiment te renforcer aujourd'hui? Je sais pas. Mais en tout cas, t'avais une faiblesse avec Morel. Ça s'est encore vu sur les premiers matchs. Ça s'est encore vu à Reims. Donc ces faiblesses-là, après, t'es bien fourni. Ça en termes d'effectifs. Mais déjà, si t'arrives pas à recruter, c'est aussi parce que ton entraîneur Bruno Genesio a peut-être pas le poids.
Tu veux dire auprès d'éventuels recrues?
Eh ben oui, parce que si t'as un entraîneur à poigne, si t'as un entraîneur avec du poids, je peux te dire qu'il va voir son président à la fin de l'exercice précédent. Il dit voilà, je re-signe, mais moi il me faut pour la préparation, ça, ou juste après la Coupe du Monde, j'en sais rien si c'est des joueurs qui ont joué à la Coupe du Monde, mais au moins il faut renforcer l'effectif à ce poste. Mais dis pas que Bruno Genesio il le voit pas tout ça. Il le voit, les faiblesses.
Peut-être qu'il en a parlé au président.
Eh ben oui, mais si le président, à l'arrivée, il arrive pas à finaliser les trucs, parce que, à l'arrivée, Ruben Dias, la clause a été à 45 millions. Ils voulaient pas payer 45 millions, ils ont fait une offre à 30. Mais si t'as un entraîneur, qui met une pression à ton président, et qui dit, écoute, moi je veux ce joueur-là, donc maintenant, on dépense, parce que, on a bien vendu, tout ça, les caisses sont bien remplies, dépense, mets l'argent pour renforcer ton truc, parce que sinon, ben moi je vais me barrer. Sauf que Bruno Genesio il est pas dans cette possibilité là aujourd'hui.
Ah non,
parce que Bruno
tout,
Genesio il est arrivé à un niveau, même lui quand il a débuté sa carrière d'entraîneur il y a 20 ans, hein, parce que ça remonte, c'est pas un jeune entraîneur mine de rien, même si c'était un niveau inférieur, et être à la tête de Lyon depuis 3 ans. Je pense que c'est le summum que Bruno Genesio, quand il partira de Lyon, je suis pas certain. Alors après, je veux pas tirer des plans sur la comète. Je suis pas certain qu'il y a un grand club qui viendra le chercher. Peut-être que c'est une finalité pour lui. Donc
tu veux dire, il prend pas trop de risques parce qu'il se dit, je veux pas me mettre en danger.
Exactement. Je pense que, et puis ça arrange aussi Jean-Michel Aulas à l'arrivée, parce que peut-être que Jean-Michel Aulas trouve des circonstances atténuantes de ce côté-là, Bruno Genesio, et que lui, ça le satisfait aussi, parce que de tout gérer, d'être un petit peu le maître à bord.
Alors,
Eh ben non, mais ça c'est pour l'extra sportif. Après, je voulais juste apporter un plus parce que là, j'ai parlé que de l'extra sportif et ça serait dégueulasse de le juger que là-dessus. Moi, je juge après sur le terrain. Et là, c'est quand même pour ça que je suis là. Hein. C'est pas pour parler tout ce que je viens de dire, même si ça me saute aux yeux.
C'est pas pour ça que je vais le dire.
Exactement. Mais quand tu vois l'équipe de Lyon, donc même l'équipe de Lyon dans le championnat de France, elle a quand même de la gueule. Entre quatrième, troisième, tout ça, l'année dernière, bon, il y a deux ans, j'en parle même pas, c'était un échec. Il y a eu des échecs en Coupe de la Ligue avec la finale au Parc OL. L'année dernière, l'objectif, c'était quand même de participer à la finale de l'Europa League. C'est un échec aussi. C'est un échec dans la façon de faire jouer son équipe. Parce que je suis désolé. Aujourd'hui, ouais, non, mais je raccourcis, Gilbert, mais je suis désolé, mais on veut parler
de Lyon. Tu reviens de vacances, mais t'es pas tout seul, là.
Non, mais je sais, mais ce que je veux dire, c'est que l'Olympique Lyonnais, quand tu le vois évoluer, moi, j'attends d'avoir une stratégie très claire, de dégager une force. Aujourd'hui, quelle est la force de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que Lyon est fort en possession de balle et dans la façon de fonctionner en rouleau compresseur? Non. Est-ce que c'est un bloc bas qui contre? Non. Donc, ils savent tout faire, mais au niveau moyen plus dans le championnat, et que quand ils se frottent à des équipes qui ont un bloc regroupé, comme ça a été le cas de Reims, même d'Amiens, qui les ont mis en difficulté avec leur victoire 2-0, bah, je suis désolé, il est à court de solutions. Cette équipe, elle ne progresse pas. Et pourtant, c'est des jeunes joueurs qui doivent progresser. Donc là, il y a un problème.
L'avis de Samy, et ensuite, Edouard prendra la parole. Est-ce que tu es d'accord avec Jérôme, Samy?
Oh, ouais, pas surtout, mais ouais, sur la plupart de ce qu'il a dit, c'est vrai. Je pense qu'ils sont arrivés à un point où ils pourront plus progresser avec Bruno Genesio, dans la mesure où peut-être qu'il a lui déjà atteint ses limites. Après, c'est des jeunes, la plupart qu'il a tous connus depuis le centre de formation, donc il a eu le temps de les faire évoluer. Je pense qu'il n'y a pas d'évolution depuis deux trois ans dans le jeu lyonnais. Il y a des fulgurances, il y a des individualités qui s'en dégagent et tant mieux pour eux. Mais dans ce qu'ils nous proposent en termes d'animation de jeu, de plaisir à les voir jouer, je suis un peu sur ma faim. Après moi qui ai connu les grandes heures lyonnaises, qui ai joué contre ces équipes-là, c'est peut-être pour ça aussi que je me focalise encore sur
du super. C'était des effectifs qui étaient supérieurs encore à l'époque.
Qui étaient supérieurs, mais je pense que Bruno Genesio cette année, de toute façon, n'a plus le choix. Il faut qu'il concrétise par soit une deuxième place ou un vice-champion de France, parce que à mon avis premier ça sera pipé, ou une coupe, faut qu'il ramène quelque chose, parce que là cet effectif, il arrive à maturité avec lui, c'est sûr.
Edouard, alors évidemment toi tu suis tout ça au quotidien, est-ce que tu es d'accord avec ce que tu as entendu?
Non, il y a beaucoup de choses que j'ai entendues. Moi, l'histoire de le groupe ne progresse pas. L'année dernière, j'estime quand même que quand tu as une équipe qui est renouvelée aux deux tiers, faire ce que l'OL a fait l'année dernière, c'est quand même les deux tiers de l'équipe qui sont totalement renouvelés l'été.
Mais donc, ils ont fait quoi
L'année dernière, les deux tiers de l'équipe.
Non, mais ils ont fait quoi? Faire ce qu'ils ont fait. Dis-moi, ils ont fait quoi l'année dernière?
C'est quand même un an. Moi, ce qui me gêne dans le procès de Bruno Genesio, c'est que depuis le 24 décembre 2015, au moment où il prend les rênes du club, il y a un délit de sale gueule. Tout ce qu'il fait, forcément, c'est mauvais. Moi, ça me gêne beaucoup depuis le début. Donc, il y a ce prisme. On le regarde toujours avec ce prisme du manque de charisme. Moi, quand je discute avec les joueurs, ils me disent ouais, manque de charisme, mais c'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est la relation que tu peux avoir avec avec les joueurs quand ils parlent de foot.
On peut te dire aussi que c'est le résultat.
Edouard, ensuite, pour te répondre,
ouais, mais juste sur trois saisons qu'il finit, il y a la moitié de la première saison, il passe de la 9e à la 2e place. Donc alors c'est vrai que les esprits chagrins vont dire
c'était une réussite, ça.
Ouais, c'était une réussite.
Oui,
exactement.
C'est une réussite la première saison. La deuxième finit 4e certes, mais avec une demi-finale d'Europa League. Voilà. La troisième saison, tu finis sur le podium avec une équipe, je rappelle, aux deux tiers renouvelés, avec des joueurs qui ont pour la plupart pas connu le haut niveau. Ferland Mendy, personne ne les connaît. Tanguy Ndombele, personne ne le connaît. Il n'a jamais joué à ce niveau-là.
Et Edouard, j'ajoute une stat qu'on a sous les yeux sur RMC Sport News. Sur les quatre derniers coachs de Lyon, Genesio, Fournier, Garde, Puel, c'est lui qui a le plus gros pourcentage de victoires.
Exactement.
Mais ça veut dire quoi, ça?
C'est un chiffre quand même qui a...
Après, c'est des saisons à plus de...
Claude Puel, 48% de victoire, Genesio, 56.
Ouais, au niveau des points, les équipes, elles prennent plus de points maintenant.
Non, mais après, c'est sûr, si on va dire, oui, c'est une saison à plus de 100 buts l'année dernière. Alors, le problème, c'est que le dialogue, il est pas possible, quoi, en fait. Parce que à chaque fois qu'on parle de Bruno Genesio... tout ce qui, si ça marche, c'est les joueurs. Si ça marche pas, c'est lui.
Non, c'est pas vrai.
Non, mais d'une manière générale, je parle pas uniquement de toi, Jérôme. Mmh. D'une manière générale, il y a ce spectre quand on regarde. Tout ce qu'il fait, on le regarde avec des yeux forcément non, avec un prisme qui est...
Je me permets de te couper parce que je vais à ton soutien sur cette question. Ouais. Et c'est vrai que l'image que dégage un coach fait énormément.
C'est
très important.
Mais, oui, je suis désolé, mais les gars.
Mais il est. Il faut peut-être pas s'arrêter uniquement ça.
Mais c'est important l'image que tu dégages. Déjà, l'image que tu dégages à l'extérieur pour les gens qui regardent les matchs ou les spectateurs.
Mais est-ce que c'est le plus important par rapport à un choix? Regarde, l'année dernière, tout le monde critiquait le fait, disant, ouais, Nabil Fekir, capitaine, mais c'est une escroquerie, c'est machin, c'est ceci. Il y a que lui qui connaît les joueurs en l'intérieur. Voilà. Alors là, Nabil Fekir capitaine, ouais, il a de la chance. Il gagne contre le PSG à un moment donné, ouais, il a de la chance. Le dernier match qu'il faut gagner pour finir la première année face à Monaco, ouais, bon bah voilà, comme il dit souvent, ouais, c'est parce que je sors avec ou je connais les joueurs depuis très longtemps qu'on a gagné 6-1 l'année dernière face à l'OM. Il faut tout récupérer le groupe après ce qui s'est passé face à Moscou l'un jeudi. Arrive à changer.
On est d'accord, mais Edouard, tu viens de le dire. Tu dis, on récupère un groupe. Là, tu parles des effets positifs qu'il a eu sur son groupe avec des bons résultats. Et ça, il faut pas lui retirer.
Oui, mais j'ai l'impression qu'on les retire tout le temps.
Non, mais à l'inverse, il y a quand même des grosses taches noires.
Mais
sortir l'année dernière par quand en Coupe de France, alors que t'as plus rien à jouer dans les autres compétitions, que c'est peut-être une compétition où tu peux arracher la gagne, voire une finale. Tu te fais sortir à quand piteusement, que tu te fais sortir en Europa League, tu viens de le dire, contre Moscou, alors que t'as gagné 1-0 à l'aller. Ouais. C'est l'erreur de qui? Alors les joueurs sont fautifs parce que les joueurs sont sur le terrain. Mais je suis désolé, tactiquement avec les changements de joueurs en cours de match, je suis pas sûr qu'à chaque fois il envoie des messages positifs. Et c'est pour ça que moi, si tu veux, je suis un peu dur peut-être avec lui, mais moi quand je vois Lyon évoluer avec les joueurs qu'il a, dans la façon dont il veut jouer, avec trois milieux de terrain, avec trois attaquants, des attaquants de côté qui rentrent souvent, avec Depay d'un côté, avec Traoré de l'autre, son pied. Quand t'as des attaquants comme ça qui rentrent, qui doivent finir devant le but, mais les latéraux, ils font quoi? Ils doivent venir dédoubler pour apporter des soutiens. Moi je vois pas ça à Lyon. Je vois pas ce plaisir, si tu veux, de mettre en danger un adversaire quand il donne la possibilité de le faire. Quand t'as des équipes, la plupart des équipes en Ligue 1, elles font que défendre face à l'Olympique Lyonnais et les grosses équipes, tu dois apporter autre chose.
Messieurs, dans quelques instants, on continue le débat avec Nicolas au 32-16. Il nous attend. Appelez-nous vous aussi, supporters lyonnais. D'accord, pas d'accord avec Jérôme. On vous attend. Et puis, tiens, j'ai deux petits messages sur Direct Studio. Salim qui nous dit, Lyon, c'est grand match contre les gros, mais ils ont du mal contre les petits qui jouent la défense. Bon, je pense qu'il pense au match, peut-être face à Reims, d'il y a quelques jours. Et puis, on me dit également sur Direct Studio, je viens de regarder les toiles d'Apoul Eden sur YouTube. Franchement, quel bonheur. allez, à tout de suite dans l'after. On est là jusqu'à minuit. Juste après 23h, n'oubliez pas le Mercato de l'OM avec Samy.
RMC, le football show, l'afterfoot, Gilbert Bribois.
Jérôme Montanella, Samy Traoré également, Jérôme, Samy, plus Edouard G qui est toujours avec nous. On continue notre débat lyonnais. Juste avant d'accueillir Nicolas, les scores des matchs de barrage. On joue le temps additionnel en Biélorussie. Le PSV Eindhoven mène 3-2 sur le terrain de Baté Borisov. Donc s'ils gagnent, bon, on peut considérer qu'ils sont quasiment en phase de poule. Il y a un partout entre Benfica et le PAOK. Le PAOK, c'est le Nick, qui a égalisé par Varda il y a quelques instants. Donc un partout, ce serait un mauvais résultat pour Benfica, un excellent résultat pour les Grecs de Salonique. Et puis 0-0 actuellement à 2 minutes de la fin entre l'Étoile Rouge de Belgrade et Salzbourg. Nicolas est là, supporter de l'OL. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir.
Salut Nicolas.
Nicolas,
salut,
est-ce que tu es d'accord avec Jérôme ou pas?
Alors je suis un peu essoufflé de tout votre débat là parce que c'était super prenant. et je pense qu'il y a une synthèse à faire de tout ce que vous avez dit parce que vous avez tous dit du vrai. Mais d'abord, je voudrais revenir sur le fait que Bruno Genesio était le coach adapté aux deux dernières années lyonnaises pour moi, enfin 2 ans et demi.
De transition.
de transition puisqu'il a assuré la fin de la période formation lyonnaise en les incorporant, je pense à la Cazette, Tolisso, etc. Et donc après on les a bien vendus. Et il a incorporé les recrues qui viennent de l'étranger, Memphis, Traoré, Diaz, a donc renouvelé les deux tiers de l'effectif, c'était quand même bien. Donc il faut mettre ça à son crédit. Et c'est vrai qu'on a tendance à lui enlever ce qu'il a fait de bien, mais c'est presque devenu un jeu. Une fois qu'on a dit ça, le problème de qui vient maintenant, c'est que Lyon a quand même le droit d'avoir un entraîneur qui ne soit pas en apprentissage. Même s'il le fait plutôt bien et qu'il a, je trouve qu'il, avec ce qu'il avait, il s'est plutôt bien débrouillé. Je vois pas pourquoi est-ce qu'à Lyon, on n'a pas un entraîneur qui a déjà soit gagné, soit été loin en Ligue des Champions pour nous emmener loin, puisque c'est notre objectif. Donc déjà, cet état de fait, il pose problème, et ça, c'est à cause de la présidence. Parce que comme je crois que c'est Jérôme, je crois que c'est toi qui as dit ça, qui a dit que le président Lass aimait bien avoir la main, donc entre autres sur son entraîneur, et que du coup, je pense que Lyon n'est pas assez attractif dans ces conditions pour attirer un entraîneur renommé, à cause de l'infrastructure du club, l'absence de directeur sportif par exemple, qui fait que déjà est-ce qu'on est en capacité de faire venir un entraîneur
J'irais même plus loin, Nicolas. Tu sais, le fait d'avoir...
Là, vous montrez du doigt en creux Jean-Michel Aulas, en fait.
Ouais, mais le
oui,
fait
bah oui, mais la finalité, c'est ça. Hein.
Le fait d'avoir, tu sais, quand t'es joueur de foot, que Lyon veut un joueur, je pense que si Lyon veut un joueur, un grand joueur, bah, il est aussi sur les tablettes d'autres clubs.
Forcément.
Le choix du joueur se fait sur des détails, et souvent la relation avec... Avec l'entraîneur. Dire, quand tu regardes, si, c'est pas faire un jeu à Bruno Genesio, encore une fois, mais sa carrière d'entraîneur fait que, malheureusement, il a pas cette aura, si tu veux, que peut avoir certains entraîneurs qui ont gagné, là, avec des champions, qui sont allés loin, ou qui ont gagné, dans des clubs, qu'ils ont eu, et qui ont un vrai passé derrière eux. Quand t'as affaire à ce genre d'entraîneur, quand t'es joueur, tu réfléchis à deux fois. Quand t'as affaire à Bruno Genesio,
c'est vraiment l'entraîneur qui te fait venir?
Mais,
c'est le salaire.
Mais aujourd'hui.
C'est un des paramètres.
Aujourd'hui,
ouais, des paramètres importants. Le salaire, ouais. Si c'est le directeur sportif qui propose un énorme salaire, mais l'entraîneur, il veut pas.
Mais attends, mais Gilbert.
Si c'est le directeur sportif qui te propose un énorme salaire et tu dis, ouais, bon, le coach, je le connais pas, j'ai pas de super échos, mais tu viens quand même, hein.
Mais si t'as personne sur les rangs. Mais quand, et là, ils ont du mal à faire venir, le joueur de Benfica.
Alors ça, c'est pas mort, hein.
Non, ils ont du mal à le faire venir par rapport à la clause et tout ça. Mais le joueur de Benfica, peut-être que lui aussi, il veut pas mettre le bordel dans son
club.
Lui,
il est d'accord avec le club de l'OL. Hein,
ouais.
Le
joueur. Alors,
c'est juste une question de club à club.
Ouais. Mais
parce qu'il y a pas le tour préliminaire. Bah, il fait le tour préliminaire.
Est-ce qu'il a joué ce soir?
Je vais vous dire s'il a joué.
C'était prévu d'être finalisé si ça devait se faire à la fin du mois.
Il était titulaire ce soir. Il était titulaire ce soir.
Ils ont pas voulu prendre le risque là d'attendre éventuellement le 29 au soir, donc à deux jours de la fin, en sachant que les deux, le joueur et l'OL, sont d'accord. Voilà.
On veut pas que ça qui se pète, hein.
Non, vaudra mieux pas. Mais bon, non, mais tout ça, que je pense que ce que dégage aussi un entraîneur, c'est important pour faire venir.
Mais après,
ça...
quand cet été Marcelo veut rester, pour avoir suivi de loin lors du stage en Suisse des discussions qu'ils avaient entre Claudio Cassapa, donc l'entraîneur des défenseurs, et Bruno Genesio, avec le celui qui est désormais vice-capitaine de l'OL, qui était en instance de partir pour West Ham pour un projet sportif à quelques zéros avant la virgule au niveau du contrat. Que Nabil Fekir reste, par exemple, voilà.
Mais Nabil Fekir, il reste Edouard parce que ça s'est pas fait à Liverpool.
Oui, non, mais après il y a un moment donné où il a dit pour le reste. Voilà, on va rester à Lyon. Ça me gêne pas non plus de d'une certaine manière. Ça me gêne pas de rester à Lyon. Là-dessus, je trouve franchement sur cet aspect-là. Je trouve que c'est cette éternelle quête de légitimité contre laquelle il doit batailler, et je trouve que c'est un procès à lui faire. Il est pas tout seul dans le staff.
C'est-à-dire qu'il y a un délit de sale gueule, quoi.
Il y a un délit de sale gueule par rapport à ça.
Non, mais il est pas tout seul.
Qui te dit qu'il y a un certain nombre de joueurs qui veulent pas venir à Lyon parce que c'est Bruno Genesio?
Mais je pense que quand t'as le choix aujourd'hui,
Demande à Ferland Mendy, par exemple, un jeune, il préfère venir ici. Léo Dubois, etc.
Mais Ferland Mendy, il avait quoi comme offre?
Il arrive du Havre, non?
Mais il vient pour la progression, pour le
bloc. Mais
les mecs. Parce que moi, je veux bien que Bruno Genesio, dans le vestiaire, il est estimé qu'il a le bon discours, que les séances d'entraînement sont ludiques, qu'il est bien. Les adjoints, ça apporte quelque chose dans la fibre lyonnaise. T'as Grégory Coupet, t'as Claudio Cassap.
En fait, le problème aussi, c'est que c'est toujours pareil. C'est à un moment donné, c'est exactement comme j'entendais quand il y avait Lacazette, Tolisso, Gonalon, le gang des Lyonnais, parce que c'est très facile à partir d'un film, etc., de dire voilà, c'est les gangs des Lyonnais, donc c'est tous des petites frappes et ça marche parce qu'ils se connaissent depuis tout jeune. C'est un staff qui est hyper professionnel pour suivre ça, pour les antennes de RMC Sport, pour un documentaire qu'on va faire juste avant la Ligue des Champions. Franchement, c'est pas qu'une histoire comme ça où penser que ça va se faire. Il y a de la préparation physique, il y a des choses nouvelles au niveau.
Non mais
Edouard,
t'as du mal à comprendre ce que
Grégory Coupet n'est pas uniquement là parce qu'il a gagné 7 titres.
Mais c'est pas ce que j'ai dit, Edouard.
Non mais
il n'y a pas que ça.
Mais qu'est-ce que t'attends, Edouard, qu'est-ce que t'attends cette année de cette équipe lyonnaise?
Bah, normalement cette année, c'est quand même autant l'année dernière c'était le chamboule tout, les deux tiers de l'équipe qui a changé.
D'accord.
Donc il fallait faire une osmose. Là normalement, ça doit quand même être meilleur que l'année dernière, fatalement.
Et si avec l'année dernière champions, ils font podium.
Et si tu fais rien du tout, si tu t'es même pas dans les trois premiers, tu finis quatrième et tu prends aucune coupe.
Après ça, moi je peux pas faire de la politique fiction ou de la fiction. Je sais pas pour l'instant.
C'est une mauvaise saison surtout. Ouais.
Non, oui, mais normalement avec l'équipe, parce que c'est l'équipe à 80% de l'année dernière, tu la renforces par une ou deux arrivées derrière au niveau de la défense centrale. Tous les jeunes ont 40 matchs de plus que l'année dernière, donc de l'expérience. Nabil Fekir a un an de plus, il a un titre de champion du monde, donc peut-être une aura. Memphis, normalement cette année ça doit être meilleur, fatalement.
Je vous livre quelques réactions, il y en a beaucoup qui arrivent. Franck dit salut les gars sur Direct Studio, il dit moi je suis marseillais, l'année dernière Genesio nous a fait très mal à l'aller comme au retour, il prend en plus la troisième place quasiment la dernière journée, il n'est pas exubérant, il se roule pas par terre, mais bon, il prend les trois points, il s'en va. Moi je veux son frère jumeau à Marseille. Donc tu vois, Franck là, le Marseillais, lui, il veut un Genesio à Marseille.
Il y en a pas beaucoup qui le veulent à Marseille.
Mathieu sur le hashtag RMC Live dit, il faut dire à Edouard que le vrai problème c'est la cohésion collective de l'équipe qui est inexistante depuis l'arrivée de Genesio. La structure de jeu est trop lisible pour les adversaires. C'est ridicule pour un club à 250 millions, dit Mathieu.
Ça passe de la progression, et juste pour finir sur le sujet, mais ça passe par la progression des joueurs. Moi, regarde, il y a quelque chose qui me marque, et c'est pour ça que sur le match de Reims, parce que là on parle des matchs il y a quelques mois, quelques années, tout ça, mais sur le match de Reims, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va se passer pendant pas mal de matchs sur l'Olympique Lyonnais, c'est que t'as ce 4-3-3 mis en place. Alors déjà, t'as un milieu de trop à mon avis, parce que tu manques de joueurs dans la surface de réparation pour apporter du danger, parce que je veux bien qu'on me dise, et Bruno Genesio l'a dit après le match, on a eu la maîtrise du jeu, mais les grosses occasions elles sont où contre Reims?
Inoffensif.
Exactement. Donc au bout d'un moment, et tu dois apporter un plus à ton équipe, tu le connais par cœur, ça fait 2 ans et demi que t'es là, t'as des joueurs, alors je veux bien qu'il les a eu l'année dernière, mais Mariano, dans cette situation-là, dans ce dispositif-là, Mariano, tu vas le perdre, parce que Mariano il est pas bon, il peut pas être bon comme ça et se les devant, parce que dans les petits périmètres comme ça, il est pas bon. Lui, c'est un attaquant de surface où il a besoin d'avoir une équipe qui fonctionne en attaque rapide. Tu dois apporter quelque chose, une autre solution, ou rapprocher un autre joueur de lui pour qu'il se sente moins seul. Dire rien que ça m'a sauté aux yeux. Mariano, il fait un début de saison catastrophique, comme la fin de saison, parce que la fin de saison, quand les Lyonnais ont enchaîné 8 victoires de suite, Mariano était plus titulaire. Mariano était plus titulaire. C'était un trio devant avec Depay, Fekir et soit Cornet, soit Traoré. Eh ben ouais, mais donc au bout d'un moment, Mariano, c'est un jeune joueur, il doit apporter un plus à ce jeune joueur là quoi.
Et messieurs, on va passer à l'OM. Edouard, merci beaucoup.
Eh ben au plaisir.
Eh ben
salut,
au débat quand tu veux.
Quand vous voulez. Je suis là, disponible.
Salut Edouard, bonne soirée. Nicolas, merci.
Au plaisir.
Bonne soirée.
Salut, Salut Nicolas, à bientôt. Dans quelques instants, dans la deuxième heure de l'after, tout sur le non-transfert de Balotelli. Vous allez tout savoir, on va entendre le président de Nice, Jean-Pierre Rivère, la réaction de Jacques-Henri Hérault, et derrière l'avis de Samy sur le mercato marseillais. Et ensuite encore d'autres infos mercato, et puis le quiz, bien sûr, qui vous attend. 32-16, inscrivez-vous pour gagner un des nouveaux t-shirts de l'after. On se retrouve dans quelques instants. Tiens, juste avant, je vous donne les scores définitifs des matchs de barrage aller de la Ligue des Champions ce soir. Il y en avait trois des matchs. Futur adversaire potentiel des clubs français, bien sûr. Le PSV Eindhoven a gagné face au Batey Borisov 3-2 en Biélorussie. Benfica PAOK, score final 1 partout. Et Étoile Rouge Salzbourg, score final 0-0. A tout de suite dans l'after.
RMC, le football show, l'after foot.